bien cette intrusion vécue dans la dimension vraiment de la souffrance et de la presque l'identification du pape au Christ souffrant. C'est les images du chemin de croix au Colisée, présidé par le cardinal Ratzinger, et on voyait le pape qui tenait dans ses mains une croix et qui était vraiment identifié au Christ souffrant. C'était les moments où il donnait sa vie, encore une fois, comme il a donné sa vie tout au long de son pontificat, pour l'annonce de l'Évangile et le service de l'Église. Et c'est pas seulement intéressant, je dirais, c'est frappant de voir comment ce pape qui avait fait de la parole et des gestes un peu les caractéristiques de son pontificat, il suffit de penser à combien de discours, combien d'homélies il a prononcé pendant 27 ans, et puis sa manière de communiquer avec même des expressions corporelles, et bien peu à peu le Seigneur lui a bloqué la façon de faire des gestes, de bouger et la possibilité de parler. Donc ça a été un parcours de dépouillement, ce qui fait penser au Christ sur la croix, pendant le chemin de croix, et puis sur la croix qui a été dépouillé pas seulement de ses vêtements, mais de toute sa dignité et de toute la puissance dont il était porteur, afin que la puissance de Dieu puisse resplendir dans sa nudité et dans sa pauvreté.
Alors le rapport de Jean-Paul II à la souffrance humaine est assez particulier. Comment la concevait-elle ?
Et en 1998, lorsque l'ONU célébrait l'année internationale des personnes âgées, le pape a écrit une lettre aux personnes âgées. Et il disait, depuis plus de 20 ans, sur le siège de pierre, je vois que les forces diminuent, que la santé s'affaiblit, et donc on sent la fatigue et le poids de l'âge. Et néanmoins, il est beau de donner toute sa vie jusqu'au bout pour le service du Christ. Eh bien, je pense que c'est la clé qui nous permet d'interpréter le rapport de Jean-Paul II à la souffrance. Donc, même dans la faiblesse, même dans la maladie, on peut servir le Christ, on peut annoncer l'Évangile. Nous savons combien la souffrance du pape, qui n'était pas cachée, au contraire, elle était presque, on peut dire, exposée publiquement, ça a été un message de l'Évangile. Donc, par la souffrance, on contribue au salut du monde. Et la vie elle est belle, elle est importante de la vivre jusqu'au bout, même quand les forces diminuent.
Vous parlez d'une souffrance exposée publiquement. Certains ont même reproché le fait qu'elle ait été trop justement exposée, qu'elle ait été trop médiatisée. Ça a été source de polémique. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, c'est vrai que dans notre monde où tout souligne la beauté, la force, l'efficacité, même du corps humain, de voir un corps blessé, de voir la faiblesse, de voir la dépendance totale de quelqu'un d'autre, eh bien c'est un contre-témoignage, apparemment. Moi je pense que, au contraire, le pape nous a dit qu'on ne peut pas mesurer la beauté d'une vie simplement en considérant son efficacité et son indépendance. Il y a un mystère de la souffrance qui doit être proclamé, finalement c'est le message de la Semaine Sainte. C'est le Christ souffrant qui sauve le monde, qui porte le péché du monde. Eh bien, nous, les hommes, nous sommes appelés, même dans des conditions très difficiles, telles que celles de la souffrance et de la maladie, de participer et de partager ce mystère de la souffrance pour s'unir au Christ et pour sauver le monde.
Est-ce que vous pensez que cette souffrance exposée, cette souffrance visible, a parlé au monde et est-ce qu'elle a parlé aux jeunes ?
Moi, je pense que absolument. C'était un message frappant, inattendu, mais très efficace. Je vous donne un exemple. On était à Longchamp en 97, lors de la Journée mondiale de Paris, quand le pape n'était pas encore tellement malade et fatigué. Pourtant, déjà, les signes de la maladie étaient très visibles. Un jeune homme, en faisant le commentaire de ce qu'il avait vécu, me disait, eh bien, quand le pape était en bonne forme, on comprenait qu'il était le porteur d'un message fort, d'un message percutant. Et maintenant, on voit le pape affaibli et malade. Le message n'a pas changé. J'ai compris, ajoute ce jeune homme, j'ai compris que ce qui est important, ce qui importe, c'est le message, au-delà de la personne qui le porte. Moi, je pense que c'est vraiment ce que Jean-Paul II voulait faire passer.
Vous avez été un proche collaborateur du pape Jean-Paul II, vous avez été organisateur de JMJ, vous avez été organisateur également de ses derniers voyages. Que ressentez-vous à l'approche de sa canonisation ?
C'est un sentiment d'émerveillement et de gratitude. J'ai vécu avec un saint. Normalement, quand quelqu'un arrive à la canonisation, il s'agit de quelqu'un qui est éloigné dans le temps. On a lu quelque chose de cette personne, on en a entendu parler, on ne l'a pas connu personnellement. Là, c'est quelque chose un peu, je dirais, d'extraordinaire. Nous avons connu, nous avons parlé, nous avons mangé avec cette personne qu'aujourd'hui l'Église nous donne comme modèle de vie chrétienne, comme quelqu'un qui a suivi le Christ et qui a essayer de mettre en pratique ce que l'Évangile demande à tout chrétien. Donc je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, une sainteté qui est à la portée de tous. Si quelqu'un a pu faire comme ça, pourquoi pas moi? Alors le pape, c'est vrai, c'était un homme, on dit, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de remarquable. Moi, je pense que c'était une personne humaine, comme chacun de nous, qui a pris au sérieux l'Évangile. Alors c'est une invitation directe, immédiate, comme Jean-Paul II a pu vivre l'Évangile en répondant à sa vocation personnelle, eh bien, chacun de nous peut faire de même.